village, sur l'église, il y a une trentaine d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de cet institut que vous avez souhaité dans les diocèses pour aller de l'avant dans la formation des laïcs missionnés, mais aussi celles et ceux qui fréquentent l'église, aident, et celles et ceux aussi qui là, ne sont pas pour l'instant dans l'église, mais qui souhaitent en savoir un peu plus. Merci, Monseigneur, donc de participer à ces quatre cours, un cours que vous avez donné à Lorient il y a 15 jours, aujourd'hui à Ploëvremel et le 19 juin, puisque le matin à Vannes et l'après-midi à Pontivy. Merci.
Le vin et le vinaigre. c'est la branche de la théologie chrétienne qui étudie l'Église. En effet, on pourrait dénominer l'Église que de l'extérieur, avec un regard historien, un regard sociologique. Mais l'ecclésiologie est l'étude de l'Église avec un regard de croyant. Certes historien, certes sociologue, mais avant tout un regard de croyant. Une réponse à cet article de notre profession de foi, je crois en l'Église. C'est-à-dire que l'ecclésiologie intègre non seulement la dimension historique et scientifique, sociologique, mais aussi le rôle de l'Église dans l'histoire du salut. C'est-à-dire dans le cadre de l'action salvatrice de Dieu dans l'histoire des hommes, dans le dessein de Dieu réalisé par le Fils avec la force du Saint-Esprit. L'Église est une réalité perceptible, chargé aux yeux du croyant d'un mystère qui la dépasse. Et c'est bien là ce qui est essentiel. Mais c'est d'abord une réalité perceptible. Observation clinique, comme nous pourrions le dire, et d'étude. D'où une tension qui s'est exprimée tout au long de l'histoire entre ces deux dimensions, ce que l'on voit de l'extérieur, d'édification ou de scandale, de critique, et ce qu'est pleinement l'Église dans le plan de Dieu qui se déploie à travers l'histoire des hommes. Quel objet d'observation l'Église offrait-elle aux hommes et aux femmes des trois premiers siècles, de ce que l'on appelle l'Antiquité chrétienne? C'est la question qu'il faut se poser, parce que cette Église des premiers siècles, beaucoup la considèrent avec la nostalgie de ce qui commence. Beaucoup voient de même cette famille de Dieu réunie au pied de la croix, dotée de la force de l'esprit, évoquée tout à l'heure dans la vidéo que vous pouvez voir. Alors, quel objet d'observation l'Église offrait-elle aux hommes des trois premiers siècles? Tout d'abord, une communauté dans laquelle on rentrait librement, indépendamment de sa race, de son pays, de sa classe, dans la Cette possibilité d'entrer librement dans l'Église, cette possibilité en quelque sorte de choisir librement sa religion, était au sens moyen quelque chose de totalement nouveau dans une antiquité où la religion correspondait à un peuple, une famille. Une communauté dans laquelle on entre librement, une communauté de pardon et de réconciliation. Souvent exclus, critiqué, persécuté, les chrétiens enseignaient le pardon. Ils se gardaient de la vengeance à l'égard de ceux qui s'opposaient à eux. Alors même que le souci de l'honneur poussait les gens de cette époque-là, comme ceux d'aujourd'hui, le reste, à se venger pour montrer qu'ils avaient raison. Troisièmement, une communauté connue pour son hospitalité envers les pauvres et envers tous ceux qui souffraient, même s'ils appartenaient à d'autres cultures, à d'autres races, à d'autres religions, comme le montre saint Luc dans la parabole du bon samaritain. Au cours des fléaux, des sièges, des épidémies qui frappaient les cités, les chrétiens ne fuyaient pas, mais prenaient soin des malades, des mourants, parfois au prix de leur propre vie. Quatrièmement, une communauté dédiée au respect de la vie. Certes, l'avortement n'existait pas à cette époque-là. On n'avait pas de technique médicale nécessaire pour le réaliser, mais dans la société antique, les enfants non désirés étaient exposés. C'est-à-dire le fait de jeter aux ordures où ils pourraient, s'ils n'étaient pas récupérés par des marchands qui les livraient ensuite à l'esclavage ou à la prostitution. La lettre à Dionysiète, qui est un texte chrétien Ils sauvaient des milliers exposés en les prenant dans leur propre famille. Saint Pierre de Lot observa de cette communauté chrétienne du premier siècle. Dans une société où la sexualité était considérée comme un appétit et comme l'exercice d'un pouvoir par les hommes qui pouvaient l'exercer sur tous ceux qui leur étaient inférieurs, la communauté chrétienne fait du mariage une manière de se donner totalement soi-même à l'autre, comme le Christ s'est donné pour l'Église. Et donc nous pouvons dire que c'est en se présentant et en étant perçu comme une contre-culture, comme une contre-société, que la communauté chrétienne a fini en trois siècles par s'imposer au monde antique et par le transformer de l'intérieur. Et c'est donc à partir de là un nouveau défi qui s'impose à elle, notamment avec la conversion de l'empereur Constantin et à sa suite de l'ensemble de la société. L'Église passe alors d'un statut de contre-culture à un statut d'institution, avec toutes les critiques, toutes les oppositions qu'une institution peut susciter. Surtout si elle est proche du pouvoir et qu'elle ressemble à un sculpteur. À partir de là, des courants de pensée se développeront qui chercheront à mettre l'institution en porte-à-faux avec le message initial que l'Église est chargée de transmettre et de vivre. Et c'est l'étude et la réponse à ces courants de pensée qui, tout au long des siècles, permettront à l'Église de forger sa doctrine et de développer une ecclésiologie qui trouve son achèvement dans le Concile Vatican II, au cours duquel les pères conciliaires ont essayé de répondre à cette question: Église, que dis-tu de toi-même? En d'autres termes, comment concilier le visible et l'invisible, l'institution et l'idéal du message? Il y a souvent le pari, comme je disais tout à l'heure, avec le plan de vinaigre qui est donné à Jésus pour étancher sa soif, une inadéquation. une inadéquation qui vient des manquements de l'institution ou de la hiérarchie. Parfois même plus qu'une inadéquation, une opposition qui vient du péché. Et c'est tout cela qui, au cours des siècles, au cours des longs siècles de l'histoire de l'Église, a été mis successivement à l'évidence comme ça l'est aujourd'hui. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et dans les temps modernes, c'est la réponse à ces critiques qui a permis à l'Église de forger sa doctrine sur elle-même. Par qui ces critiques étaient-elles portées? Considérons d'abord l'Antiquité, aux alentours de l'an 170 après Jésus-Christ. Apparaît dans le courant de pensée qu'on appelle le montanisme. Avec deux prophétesses, Maximilien et Priscilla, fondent en Phrygie un mouvement très charismatique qui attendait l'imminence de la parousie. Ils pensaient que le retour du Christ était imminent. Et puisque le Christ avait promis d'envoyer le Saint-Esprit, les adeptes de cette secte voient en montant, sinon l'Esprit Saint lui-même, mais tout au moins son messager, son prophète. La doctrine du montanisme, oppose une église prophétique pleinement spirituelle à l'église hiérarchique fondée sur les apôtres dont les contours commençaient à se dessiner. Les montanistes considèrent par exemple que les prophètes, puisqu'ils bénéficient d'une inspiration directe et constante de l'Esprit Saint, étaient supérieurs aux apôtres, à leurs successeurs et à toutes les structures que l'Église naissante était en train de se donner pour affronter les temps et l'histoire. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle, les cathares, ce qui signifie les purs, leur cadre est qualifié de parfait. Vaudois dans les Alpes, Bogomile et autres patarins se sont séparés de l'Église pour vivre ce qu'ils appelaient un christianisme authentique. Ils voient que dans l'Église, il y a des pécheurs et cela les scandalise. Ils voient que dans l'Église, comme dans le monde, il y a du mal. Et cela les dérange. Pour eux, seuls les purs il risque une explication par un recours à un dualisme théologique. Pour eux, il n'y a pas un seul Dieu, il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Le Dieu du bien, créateur de l'univers spirituel, est invisible. Et le Dieu du mal, créateur de l'univers visible. Ce n'est qu'en s'arrachant au monde visible et charnel que l'on peut être sauvé. Les âmes qui sont des esprits créés par le Dieu du bien sont enfermées dans des corps créés par le Dieu du mal. Et ce n'est qu'en s'arrachant à ce corps par une vie pure et pénitente, en un mot appelant kata, c'est-à-dire pur, parfait, que l'on peut revenir à l'unité de l'esprit, à l'unité avec le Dieu du bien, créateur de l'univers invisible. Les kata s'opposent au mariage et à la procréation, puisque cela revient à enfermer des esprits bons dans des corps mauvais. Il fallait tout au long de sa vie séparer le bien du mal, le visible de l'invisible.
Était un abbé cistercien.
Après une forte expérience mystique en terre sainte, où il passe 40 jours sur le mont Tabor, il développe, nous pourrions dire, une conception de l'histoire divisée en trois règnes.
Thank you.
Comme il sera aussi ancêtre des erreurs successives concernant l'Église. On présente aussi Joachim Flore comme le fondateur de la philosophie de l'histoire, puisqu'il est le premier à rompre avec une conception cosmique du monde pour aller vers un accomplissement, une réalisation de l'histoire. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes. Thank you. face à ces contestations récurrentes tout au long des siècles. L'Église a été mise en demeure d'affirmer et de justifier sa visibilité, d'affirmer et de justifier son existence visible à travers l'appareil institutionnel. En même temps qu'elle était obligée de le faire doctrinalement face aux contradictions d'ordre religieux, comme nous l'avons vu, elle était aussi obligée de le faire politiquement face aux tentatives d'annexion et de suppression des États. Ainsi, les premiers traités d'ecclésiologie sont des traités de droit canonique destinés à affirmer l'autorité du pontife romain face à l'empereur dans la longue lutte du sacerdoce et de l'empire qui a duré tout au long du Moyen Âge. Puis, face aux États souverains, devant lesquels il a fallu affirmer et défendre l'indépendance de l'Église. C'est à cette époque que l'on peut faire remonter la conception de l'Église comme société, car c'était bien cela qui était en cause. Une société structurée, avec sa hiérarchie, avec sa finalité propre. Totalement satisfaisante. peut être dit sur l'Église. Elle ne dit rien de son mystère, ni de son essence. Si elle répondait bien à ceux qui ne mettaient à l'avant qu'une Église invisible, purement spirituelle, et à ceux qui voulaient dissoudre l'Église dans l'État, elle faisait passer au second plan la dimension surnaturelle de l'Église. Aussi, dès la fin du XIXe siècle, en commençant par Newman, mais surtout au XXe siècle, de nombreux théologiens ont essayé, d'une part, de mieux souligner la dimension surnaturelle de l'Église, sa réalité de foi, et d'autre part, de dépasser, de surmonter la dichotomie, la séparation entre l'Église visible et l'Église invisible, qui avait si lourdement marqué les tentatives de réforme du passé en stigmatisant l'Église visible au risque de la réduire dans des positions qui n'étaient pas parfaitement ajusté à une vision totale de l'Église. Mais dans l'histoire de la pensée, et surtout en théologie, c'est ainsi que la vérité s'offrait un chemin, un passage, et se précise en évitant les obstacles des conceptions partielles. Saint Paul écrit dans une de ses épîtres « Oportet hereses est ». Il faut qu'il y ait des hérésies. De ce point de vue, c'est absolument le même, parce que historiquement, dans l'histoire de la pensée, ce sont les erreurs manifeste que l'on est obligé de corriger et qui permettent à la vérité de se frayer un chemin parfois étroit entre des vérités qui s'opposent. Benoît XVI, alors qu'il n'était que théologien et même pas encore cardinal, écrivait en 1971 dans il s'agit d'embrasser à nouveau d'un seul regard l'aspect intérieur et l'aspect extérieur de l'Église pour en faire une unité. Une étape importante dans cette réflexion ecclésiologique avait été dès 1943. L'apparition de l'encyclique Mystici Corporis Christi, le corps mystique de Christ. Dans ce texte, Pie XII embrasse tout à la fois l'aspect intérieur et l'aspect extérieur, puisque le Christ, auquel il se réfère pour parler de l'Église, est tout à la fois vrai Dieu et vrai homme. Je ne sais pas si dans le cadre de l'Athénée, vous avez eu un cours de christologie, mais au fond, dans l'étude de l'unique personne du Christ, sont les mêmes questions qui ont été débattues entre ceux qui ne s'attachaient qu'à l'humanité du Christ et ceux qui ne s'attachaient qu'à sa divinité en contestant l'idée même que Dieu aurait pu s'incarner. Entre ces deux positions exclusives, la vérité s'est frayée un chemin en définissant l'union hypostatique. Une seule personne en deux natures. Que nous dit Pie XII ? Que l'Église est une communauté organique, visible, dont la tête est le Christ. L'Église est appelée le corps du fait qu'elle est une entité vivante, observable, existant dans notre monde. Elle est appelée corps du Christ parce que le Christ en est la tête et le fondateur. Elle est appelée corps mystique car elle n'est ni purement physique ni une entité purement spirituelle. Mais elle est surnaturelle. Ainsi, la dualité est dépassée, l'aspect intérieur et l'aspect extérieur sont embrassés dans le même corps. Cette Église est sainte de la sainteté de celui qui en est la tête. Certains de ses membres peuvent connaître des défectuosités. Pie XII écrit au numéro 62 de son encyclique : le Christ n'a pas voulu exclure les pécheurs de son Église. Des églises de pure, dont certains rêvent encore. Le texte poursuit, si de temps en temps apparaît là dans l'Église quelque chose qui indique la faiblesse de notre humanité, il ne devrait pas être attribué à sa constitution juridique, mais plutôt à cette inclination regrettable au mal trouvée dans chaque individu. Pour aller plus loin, dans ce regard tout à la fois intérieur et extérieur, le Concile Vatican II utilisera l'analogie du sacrement. Et il dira, dans la Constitution Lumen Gentium, que l'Église est comme le sacrement du Seigneur. Pourquoi le choix de cette analogie ? D'abord parce que les sacrements sont des signes sensibles, visibles, observables, des paroles et des actions, accessibles à notre humanité actuelle. Ils sont des signes efficaces de la grâce instituée par le Christ, lesquels la vie divine nous est que prononce le ministre du Saint-Moment, on l'appelle la forme. Matière et forme. Le recours à des signes sensibles convenait à l'homme qui, composé d'un corps et d'une âme, connaît les choses surtout par l'expérience des sens. Les sacrements sont des signes qui réalisent ce qu'ils signifient. Ils sont les moyens ordinaires par lesquels Dieu nous communique sa grâce. Les pères de l'Église qualifiaient de sacrement toute réalité humaine qui réalise et manifeste une intervention de Dieu dans le monde pour le salut des hommes. Tout cela appartient au mystérium en grec, sacramentum en latin, le mystère de Dieu. L'exécution de son dessein dans notre histoire. Tout sacrement a une face visible le signifiant et une face invisible le signifié. Comme réalité du monde, il est objet d'observation et d'analyse rationnelle. Comme réalité divine, il est objet de foi. Dans le sacrement de l'Eucharistie, le signifiant est un morceau de pain qui appartient au monde. Mais ce morceau de pain qui appartient au monde me renvoie au signifié et nous fait dire en le voyant, mon Seigneur est venu. On ne peut pas superposer les deux réalités. Dieu n'est pas un morceau de pain. Et l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Mais sans le signifiant qui est le morceau de pain, je ne peux pas accéder au signifié. Qu'est la présence du Christ dans l'Eucharistie. Il en va de même pour l'Église. Bien sûr, l'institution ne dit pas le tout de l'Église du Christ. Bien sûr, l'Église ne se limite pas à une institution visible et souveraine, société parfaite, face à un État visible et souverain. Bien sûr, l'Église du Christ est spirituelle et invisible, mais son caractère matériel et le signifiant de sa dimension spirituelle. Ce Ce qui a l'air visible est le signifiant de ce qui est invisible. En utilisant l'analogie du sacrement, le Concile rend bien compte de la nature pluridimensionnelle de l'Église et il maintient ensemble ceux qui avaient été artificiellement séparés, l'Église et le royaume, le charnel et le spirituel, le visible et l'invisible. L'institution est idéale. Le langage sacramentaire utilisé par Vatican II pour parler de l'Église permet d'écarter aussi bien une vision purement spiritualiste héritée des hérésies médiévales et de bien des formes du protestantisme. Il écarte aussi une vision purement sociologique, dans laquelle l'ecclésiologie catholique s'était réfugiée, tout en faisant droit aux deux. Ce qui dans l'Église est visible, matériel, humain, et donc aussi marqué par le péché, ne constitue pas une fausse Église. Ce n'est pas la Babylone, le Joachim de Flore, qu'il fallait détruire pour dégager la véritable Église, la cité sainte, la Jérusalem céleste, qui descendait du ciel auprès de Dieu, toute belle, comme une fiancée parée pour son épouse. Ce qui, dans l'Église, est visible, est aussi constitutif de l'Église, comme le pain est constitutif de l'Eucharistie. L'institution n'est pas à détruire, l'institution fait partie de l'Église véritable. Comme le morceau de pain fait partie de l'Eucharistie. De même qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans le morceau de pain qui la signifie, qui signifie la présence de l'Église. De même, il n'y a pas d'Église et il ne saurait qu'en avoir sans l'institution qui, certes, n'est pas le tout de l'Église et ne se limite pas à être une société parfaite. Mais qui signifie et réalise le dessein sacrifique de Dieu sur le monde. L'institution est le signe et l'instrument. Elle renvoie à une réalité plus haute. Et déjà, dans ce qu'elle a de meilleur, elle réalise cette réalité. Car les sacrements ne sont pas seulement des signes, comme le drapeau est le signe de la patrie. Ils réalisent ce qu'ils signifient. La confession n'est pas seulement le signe Dieu par l'homme, mais elle réalise pleinement pour moi le pardon de Dieu. Ainsi, en est-il de l'Église, elle est le signe du royaume et elle le réalise. Quelle conclusion en tirer pour notre compréhension de l'Église et pour notre manière de vivre en fils et en fille de cette Église. vivre de l'Église est le signe du royaume de Dieu. C'est d'abord vivre que l'Église n'est pas le royaume de Dieu. De même que le drapeau qui est le signe de la patrie n'est pas la patrie. Si l'Église n'est pas le royaume de Dieu, il ne faut donc pas s'étonner qu'elle ne soit pas composée uniquement de justes, de purs, de parfaits, de saints, mais aussi de pécheurs. Je dirais même plus, parce qu'elle est un signe qui réalise ce qu'il signifie, c'est la définition du sacrement. Il est normal qu'elle rassemble ceux qui ont besoin d'être sauvés. Elle ne serait pas l'Église. N'accomplirait pas ce pourquoi elle existe si elle ne comportait pas de pécheurs en son sein. Mais sa qualité de signe oblige l'Église. On dit que noblesse oblige. Pour que le signe soit signifiant, pour qu'il soit lisible, pour qu'il soit crédible, pour qu'il atteigne sa finalité de signe, il faut que le signe soit translucide. Il laisse passer la lumière. Qu'il fasse comprendre. Qu'il ne fasse pas obstacle. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est donc un devoir pour l'Église de cultiver constamment sa ressemblance avec le royaume. Et pour chaque chrétien, de tendre vers la sainteté.